I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Un podcast Binge Audio.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Comme vous le savez, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs.
Et aujourd'hui dans Kif Taras, nous allons revenir quelques mois en arrière sur des polémiques médiatiques qui ont interrogé les contours de l'art et de la liberté de création face à l'histoire et au racisme. L'art excuse-t-il le racisme ? Y a-t-il de la place pour l'absolutisme dans nos libertés ? Quel sens prend la fresque signée par l'artiste Hervé Di Rosa qui se trouve à l'Assemblée nationale en commémoration de l'abolition de l'esclavage ? Quand on parle de racisme, pourquoi est-il important de regarder l'histoire de France en face, sans passer par les USA ? En somme, l'art et le blackface, qu'on peut traduire par barbouillage en français, l'apport de la France aux théories racistes et un universalisme antiraciste sont les sujets que nous aborderons aujourd'hui dans ce Kif Taras.
Et pour en parler, nous avons invité Mam Fatou Niang qui partagera avec nous son expertise sur la question. Bonjour Mam Fatou.
Salut. Bonjour les filles, bonjour Rokaya, bonjour Grace.
Merci d'être là. Tu es donc enseignante-chercheuse à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Mmh. Tu es autrice de l'ouvrage Identité française, au pluriel, banlieue, féminité et universalisme, édition Brill en 2019. Tu es aussi la réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle Marianne Noire, qui date de 2016. Et tu as participé à l'ouvrage collectif Racisme de France, racisme au pluriel, mmh, dirigé par Omar Slaouti et Olivier Lecourt-Grandmaison, mmh, et qui vient de paraître aux éditions La Découverte.
Ouais, donc j'ai fait le chapitre sur la négrophobie.
Oui, c'est un thème qui va venir de manière récurrente dans cet entretien qu'on va avoir avec toi aujourd'hui.
Et dans Kif Taras, on a un rituel quand on commence à parler des questions raciales. On demande à notre invitée si elle se situe sur l'échiquier racial et si oui, comment. Par exemple, Rokaya est perçue comme une femme noire, moi comme une femme asiatique et toi, Mam Fatou, comment tu te définirais si tu te définis ?
Ben, je suis Mam. Je suis Mam Fatou, je suis une fille, je suis une mère, je suis une copine. Je travaille, je ris, je danse, je fais de la recherche, j'emmerde un peu les gens des fois. Je ne sais pas si on peut dire des gros mots, mais voilà, je suis Mam. Je suis moi et je suis une femme noire.
Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où est-ce cette... tu as réalisé que tu es noire ?
Bah, moi, j'ai grandi entre la France et le Sénégal. Donc, c'est une expérience assez particulière de grandir tantôt en contexte majoritaire et de tantôt d'être en contexte de minorité. Et c'est vrai que j'ai eu très, très tôt... cette évidence que l'expérience d'être Mam au Sénégal dans les années 90 et de grandir en tant que d'être Mam au Sénégal à Lyon à la fin des années 90, voilà, faisait que j'étais deux personnes différentes. Et il y avait une espèce de schizophrénie qui se développe par rapport à la manière dont on se perçoit, à la manière dont on est perçu. Et moi, cette schizophrénie, j'ai essayé de la comprendre et j'en ai fait mon travail, ma recherche. Donc, qu'est-ce que c'est que l'identité ? Comment qu'on se perçoit ? Comment est-ce qu'on est perçu par les autres ? Qu'est-ce que c'est que d'être noir dans notre espace aujourd'hui ?
Alors, Mam Fatou, on va revenir sur un événement qui s'est produit il y a peu. On va remonter le temps à quelques mois, quand la France a été secouée par un débat médiatique dont tu étais une des instigatrices. Mmh. Le 4 avril 2019, tu publiais une tribune co-signée avec l'écrivain Julien Suodo, mmh, dont le titre était « Banalisation du racisme à l'Assemblée nationale, ouvrons les yeux », assortie d'une pétition à destination du président de l'Assemblée nationale et des députés qui les interpellaient en fait sur la fresque de l'artiste Hervé Di Rosa qui commémore depuis 1991 la première abolition de l'esclavage de 1794. Mmh. Alors dans ce texte, vous déploriez notamment l'imagerie hésitant entre entre Banania et Tintin au Congo, on vous cite, les lèvres surdimensionnées, les yeux exorbités et ses sourires béats et carnassiers. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse justement de cette initiative ?
Donc, je suis invitée à l'Assemblée nationale pour la projection de mon film Marianne Noire, qui est un documentaire sur les parcours de 7 femmes afro-française. Et là, devant la salle de projection, je tombe sur cette grande fresque qui, je découvre plus tard, fait partie d'un ensemble de 12 toiles qui commémorent les plus grands moments de l'Assemblée nationale. Et là, je tombe sur Banania, Tintin au Congo, à l'Assemblée nationale. Et je suis saisie. Et mon saisissement est doublé lorsque je me rends compte que cette toile-là, cette fresque-là, dans cet endroit-là, commémore l'abolition de l'esclavage.
Quand tu dis Banania, c'est-à-dire que ce sont des visages noirs qui ont vraiment une apparence...
Voilà, c'est vraiment des grands visages noirs, très très noirs, une couleur qui en plus est surnaturelle et vraiment qui n'est pas naturelle, très noire, avec des lèvres rouges, d'un rouge vif, surdimensionné, des yeux globuleux, des dents carnassiers, l'imagerie Banania. Et quand on dit l'imagerie Banania, tout le monde sait de quoi on parle. Et là, donc, avec mon ami, complice, l'écrivain et professeur Julien Siedo à Bryn Mawr, on lance cette pétition pour demander, non pas la destruction de l'œuvre, ça c'est important, mais son retrait de l'Assemblée nationale. Parce que pour nous, cette œuvre était historiquement inacceptable, elle était politiquement incompréhensible, c'était une insulte aux victimes de l'esclavage, à leurs descendants, et une insulte à la France par rapport à elle-même, parce que la France ne peut pas commémorer l'esclavage, l'histoire de l'esclavage de cette façon. Et pour nous, toutes ces fautes-là, elles étaient aggravées par la pérennité de cette œuvre qui est à l'Assemblée nationale depuis 28 ans. Et nous avons posé la question, est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est une ignorance ? Est-ce que c'est un lapsus ? Ou est-ce que là, on a un des développements de ce qu'on appelait, nous, les angles morts de notre histoire coloniale ? Et les réactions ont été assez intéressantes.
Ah bah justement, les réactions, donc, elles ne se sont pas fait attendre. On vous a accusé en retour de censure, donc, je cite, hein, de tyrannie des minorités, repentance mémorielle, business de la race et concurrence victimaire. Qu'est-ce que, pour toi, cela dit de la France et de notre rapport à notre histoire, notamment de l'esclavage ?
Oui, non, on a tout entendu, comme tu dis, donc on était des terroristes intellectuels, racistes, antiracistes, ça c'est intéressant. On nous a dit que voilà, ce peintre dessinait tous ses personnages de la même façon, ce qui était faux. J'ai fait faire une recherche par mes étudiants qui ont trouvé qu'il avait 12 types de nez, 23 types de yeux, 22 types d'oreilles, ce qui lui laissait quand même une probabilité assez importante de ne pas pondre quelque chose comme ça. Et pour nous, ce déni-là, et même si c'était le cas, même s'il peignait tous ses personnages de la même façon, on sait que noir et blanc ne sont pas soumis au même type de représentation. Est-ce ce déni, ce refus de nous écouter ? Pour nous, ça disait quelque chose d'assez important de ce que j'appelle le racisme à la française, le fait de se réfugier derrière les excuses qu'on a pu nous dire, par exemple, vous êtes trop sensible, vous ne comprenez pas que c'est de la satire, c'est de la caricature dans la plus pure tradition française, l'artiste ne peut pas être raciste, il a travaillé avec des artistes africains en Afrique, avec des artistes caribéens à Miami, l'art est libre, libre de choquer, ça c'est la Ligue des droits de l'homme. Donc on a eu un arc comme ça, un consensus extraordinaire qui partait de l'extrême gauche, donc la Ligue des droits de l'homme, à l'extrême droite française, qui pour nous montrait quelque chose d'assez important, qui est le déni, la compréhension française de ce qu'est le racisme. Pour moi, la compréhension française du racisme est marquée par une schizophrénie républicaine, nourrie par l'effacement du mot « race » et l'effacement de la race comme catégorie opératoire dans le champ public, alors que la race, depuis le début de la modernité européenne, coordonne, organise notre vie, organise ce qu'on appelle les lignes de notre vie, selon des lignes raciales, pour reprendre un peu l'expression de Dubois. On refuse de dire, on refuse de voir la couleur, alors que ces lignes-là structurent encore notre société. Il y a un déni, un aveuglement. On voit la race, on voit le racisme, surtout la négrophobie, par exemple, au Brésil, dans le meurtre des jeunes noirs et des jeunes indigènes par la police. On reconnaît le racisme dans l'Amérique de Jim Crow, dans l'Amérique de Trump. On reconnaît le racisme dans l'apartheid en Afrique du Sud. On reconnaît ces mots racisme, suprématie blanche, quand c'est utilisé ailleurs, mais on ne peut pas les reconnaître en France, parce que la France, en France, le racisme n'existe pas. Et on le voit dans la manière dont on nous accuse, nous, de l'importer. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Non seulement c'est vu comme une exportation, mais en plus une exportation qui menace la République, qui, on le sait, a terrassé ce fantôme ou ce monstre du racisme. Et en ce moment, je suis en train de travailler très vite sur un article qui s'appelle « Les trois grâces du racisme français, innocence, ignorance, arrogance ». Là, on trouve l'arc du racisme made in France. Donc l'innocence qui est l'état dans lequel le républicanisme, l'universalisme, les écoles et toutes ces institutions culturelles, musées, etc., nous maintiennent en nous coupant de notre mémoire raciale. Cette innocence devient une ignorance qui, pour moi, est quelque chose d'actif, qui est entretenu. C'est passé de « je ne savais pas » l'innocence à « je ne veux pas savoir ». Et dans le cas français, cette ignorance-là se double et finit en arrogance, qui est l'arrogance arrosée par l'universalisme de « je n'ai pas besoin de savoir parce que de toute façon, ça ne peut pas exister chez moi ». Donc cette tendance à exporter, à voir un phénomène étranger et un phénomène qui est étranger et qui est importé chez nous, sapent les fondations de notre républicanisme qui nous a protégés de ce racisme-là. Donc, ne peut pas exister chez nous.
Justement, Grâce parlait à l'instant d'un front extrêmement large qui s'est opposé à votre démarche et à la pétition. L'artiste lui-même, Hervé Di Rosa, a réagi. On va l'écouter.
Le journaliste du Monde m'a appelé dimanche matin pour me demander mon avis sur cette pétition qui était sortie sur le site de l'Obs, le magazine de l'Obs. Pour un dimanche matin, je dois dire que j'ai été un peu abasourdi. Après, il est vrai que je n'attendais pas à ce que ça se passe dans mon cas, mais je suis depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années, ce phénomène qui vient des États-Unis et qui est la racialisation, le Warner Trigging, le Warner Trigger. Vous savez, on va bientôt informer les gens, les avertir, comme quoi il y a des textes dans les romans du 19e siècle qui peuvent être offensants ou humiliants. Je suis tout ça, l'histoire de la pièce de théâtre d'Eschyle, etc. Mais j'étais vraiment surpris que cette guerre, finalement, me prenne dans ses filets. Quoi.
Vous avez été blessé ?
Non, blessé, il ne faudrait pas dire ça. J'ai été blessé en second temps, parce que dans un premier temps, c'était l'humiliation que les gens ressentaient devant... la figure noire représentée de telle manière. Déjà, pour moi, il me semble inacceptable, quelle que soit la forme, qu'elle puisse être changée, enlevée, etc. Moi, toute forme, il y a beaucoup de choses qui me blessent et qui me touchent négativement. C'est pas pour ça que je vais vouloir en faire une loi et les censurer, vous voyez.
Alors, effectivement, c'est toujours ce qu'on brandit, cette idée selon laquelle... on veut censurer son art et que lui est heurté comme personne de bonne moralité. Est-ce que tu dirais que c'est une particularité française de brandir les libertés individuelles en opposition aux questions relatives au progrès social et à l'antiracisme en particulier ?
Absolument. Moi, j'ai été très choquée parce que sur plusieurs antennes que je ne citerai pas ici, mais c'est très facile à trouver, et des très grands journaux quotidiens, et d'ailleurs une émission qui a été faite aussi par Arte BBC, il a dit qu'il avait été blessé, choqué, heurté... alors que Julien et moi ne portions pas de jugement esthétique sur l'œuvre, et véritablement, c'est les sentiments qu'il peut avoir par rapport à notre démarche, ce n'était pas la priorité pour nous. Mais quand j'entends cette appréciation personnelle qu'il a être doublée par des grands organes, je peux citer la rencontre que tu avais eue, Rokeya, sur France Culture, lors de cette émission, l'art peut-il être raciste, ou la réponse qu'on a pu voir dans Le Monde, dans Libé, Le Figaro, la Ligue des droits de l'homme, de dire « c'est de l'art ». Donc à partir de là, il y a une espèce de drap qui se dépose sur cette question et on ne peut plus, on est entre cette balance, entre la liberté individuelle, il a le droit de choquer en tant qu'artiste, et cette idée que voilà, c'est de l'art, ça ne peut pas choquer. Et moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, et je l'ai déjà dit, la question de « il est blessé ou pas », mais qu'est-ce qu'on fait de la balance des personnes qui se disent choquées par cette œuvre ? On en fait quoi ? On fait quoi quand, moi, sur Twitter, je reçois des messages de collégiennes de 13 ans qui me disent leur honte, leur humiliation de voir d'autres collégiens ricaner devant ces toiles parce qu'il y a quelque chose que ces gamins, ils ne comprennent pas très bien, ils ne connaissent pas ces signes parce qu'on n'a pas appris ces signes, mais c'est rigolo. Est-ce que la commémoration de l'esclavage est censée être rigolote ? Et quand on nous parle de la satire, de la caricature, qu'est-ce que la satire et la caricature viennent faire dans une œuvre qui est censée commémorer l'esclavage ? Moi, je pose la question. Nous sortons des commémorations des attentats horribles, terribles du 13 novembre 2015. Nous sommes en train de réfléchir au type de mémorial qu'il faudra pour cet événement. Est-ce qu'on peut penser une seconde que cet événement terrible puisse être représenté par un élément satirique, un élément caricatural derrière lequel l'artiste pourrait se cacher en présentant sa liberté artistique et le fait qu'il pourrait être blessé, que son œuvre soit mal comprise. Moi, c'est la question que je pose.
C'est vraiment une réaction assez classique en France, je trouve. Lorsque on questionne quelque chose de raciste, on se replie sur des questions individuelles.
Hein,
c'est-à-dire que là, on parle de quelque chose de collectif.
Absolument.
Tu poses une question collective. Et d'ailleurs, la tribune que vous avez écrite avec Julien Ciodo, le 21 mai 2020, donc un an après cette première tribune, elle s'appelle « Ce tableau d'Hervé Di Rosa est-il la meilleure œuvre pour commémorer la première abolition de l'esclavage ?»
Absolument.
Donc, ce n'est pas une question de... On parle toujours de censure quand il s'agit de racisme.
Exactement.
Il y a vraiment le corollaire de « Ah, on ne peut plus rien dire, ils veulent notre silence », alors que c'est quand même les personnes non blanches qui ont été réduites au silence pendant assez longtemps.
Absolument.
Donc, ce renversement est toujours assez saisissant.
Absolument.
Et moi, je voudrais faire un parallèle avec quelque chose que j'ai vécu il y a très peu longtemps par rapport au yellow face. Donc, c'est le black face, on va dire, pour les personnes asiatiques. Donc, le fait de grimer des personnes, de les déguiser pour singer une culture. Et ça provenait d'une publication d'un journal que je trouve plutôt engagé et d'une manière générale très allié. Il s'agit de Street Press. Et ils avaient fait un article très bien, hein, au demeurant, par une personne concernée qui est un journaliste, sur les Roses d'Acier, qui est un syndicat de travailleuses du sexe à Belleville. Et pour illustrer cet article, ils ont choisi des illustrations de personnes à la peau jaune. Donc il y a plusieurs illustrations et que des personnes qui sont donc à la peau jaune. Et ça m'a été envoyé par une personne, par une illustratrice qui s'appelle Maïri. Elle m'a juste dit, qu'est-ce que t'en penses? Et l'une des réponses de Street Press a été, je comprends que ça puisse surprendre, mais nous n'avons pas tiqué car nous travaillons souvent avec cette illustratrice qui colore régulièrement en jaune ou bleu ses persos. Donc je les ai contactés, je leur ai dit, c'est exactement la même défense que Hervé Di Rosa ou que les gens disent. C'est-à-dire que j'ai toujours fait ça. Ouais. Donc, c'est pas raciste, puisque j'avais pas l'intention de choquer. Exactement. Donc, on se passe encore sur le terrain très individuel de l'artiste, de défense de l'artiste, et on met de côté des revendications qui sont ceux d'une... Et même quand on veut bien faire, c'est-à-dire que la commémoration de l'esclavage, parler du quotidien du travail du sexe chinoise, c'est des choses qui sont louables. Qui partent d'un bon quotidien. Intéressant.
Et c'est le cœur de l'article que j'écris, donc les trois grâces du racisme français, innocence, ignorance, arrogance. Pour nous, et c'est une chose sur laquelle on a aussi beaucoup travaillé avec Julien, c'est le racisme est mal défini en France parce qu'on parle d'être raciste. Personne, à moins d'être vraiment, moi je le dis souvent, d'être un militant hardcore, skinhead ou je ne sais pas, de l'extrême droite, personne n'aime se dire raciste. Et le problème qu'il y a en France, c'est aujourd'hui, c'est un problème d'auxiliaire. Et ce n'est pas de l'auxiliaire être qu'on doit parler, c'est de l'auxiliaire avoir. Se dire que tout le monde a du racisme et qu'on est dans un état d'innocence parce qu'on a été mal éduqué sur ces questions, c'est une question de pédagogie. Mais à part du moment où quelqu'un te dit « tu as fait quelque chose de raciste » et qu'il le pointe, ce n'est pas à toi de dire « est-ce que je pense que… » Je pense que… Essayer de se déplacer, et c'est ce problème qu'on a en France, de se déplacer, de se mettre à la place de l'autre qui a toujours été muté, qui a toujours été tu, et qui aujourd'hui te dit « j'ai pas envie d'être peint en jaune, j'ai pas envie qu'on me blackface », et d'avoir l'humilité de se dire « voilà, peut-être je ne suis pas raciste, mais j'ai du racisme en moi, et il y a des raisons historiques et culturelles à avoir ce racisme, et à partir de là, maintenant qu'on me l'a pointé, qu'est-ce que je fais pour le changer ?» Et c'est là qu'il y a ce problème où l'ignorance se transforme en arrogance parce que ce n'est pas à toi de me dire ce que j'ai ou je n'ai pas. Et c'est là qu'on se trouve aujourd'hui en France du refus de pédagogie par rapport au fait qu'aujourd'hui, on a des minorités qui ne veulent plus être dépeintes de certaines façons et qu'il va falloir que les gens le comprennent.
Alors, votre prise de parole, elle fait écho à une autre polémique sur le thème de l'art et de l'antiracisme. Mm-hmm. Il s'était, à peu près à la même époque, une représentation des suppliantes d'Eschyle à la Sorbonne qui a été dénoncée par des manifestants qui protestaient contre l'usage de masques et de maquillage noir par des acteurs blancs. Mm-hmm. Il s'agit du CRAN et de l'UNEF, pour ne citer que ces organisations-là. Et dans une des tribunes, tu dis, mais ce n'est pas du tout la même revendication, en fait. Tu dis, le débat qu'on souhaite avoir n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que pour toi différencie ces
deux... Alors, ça n'avait rien à voir, mais on était dans le même nuage de représentation. Je partais de plusieurs exemples. En 2010, Safi Nebbou met en scène l'autre Dumas, avec Gérard Depardieu, un blond aux yeux bleus qu'on va devoir noircir pour qu'il joue Dumas, petit-fils d'une esclave haïtienne. En 2015, Luc Bondy met en scène au Théâtre de l'Odéon Othello, qui est l'une des rares pièces du répertoire classique européen avec un noir dans le rôle-titre. Et on va prendre Philippe Torreton, qu'il va falloir noircir. Et Bondy nous dit, devant la polémique, « Ouais, mais on va arrêter, regardez la magnificence de la mise en scène et des acteurs, au lieu de parler de la race, n'a rien à voir dans la pièce. » Quand même, Othello. Othello, c'est quand même, on parle de la différence. Et là, on retombe, pour moi, on a perdu beaucoup de temps, et on va revenir, j'espère, sur ça, sur cette tendance à botter en touche, sur cette tendance à mettre à l'extérieur, sur cette tendance à dire « ça vient de l'étranger, c'est pas chez nous », qui évite l'ancrage. Par exemple, sur Eschyle, on a perdu tellement de temps aux suppléantes à dire « est-ce que c'est raciste, c'est pas raciste, les masques, machin ?» Là où on aurait pu essayer de voir qu'est-ce que cette question disait de la France de 2019. Pourquoi Eschyle nous peint des suppléantes qui, on nous dit, sont des filles brunies par le soleil d'Égypte, qui ont la couleur de la terre du Nil, donc on sait qu'elles sont noires. Mais à son temps, il y a une raison pour laquelle il leur met des masques ou il les brunit, parce que peut-être qu'il n'avait pas d'actrice de cette carnation. Et pourquoi en 2019, alors que des actrices et des acteurs noirs galèrent à trouver du taf, à monter sur des scènes, qu'on nous dit qu'on est obligé de noircir des comédiens blanches et blancs pour jouer des rôles de noirs? Ça, c'était une question. Ça nous faisait ancrer le débat sur des questions franco-françaises au lieu de perdre un temps fou à se dire « Ah mais est-il raciste? Mais ces gens sont fous !» Donc c'est ça le problème. Et moi, quand je parle d'indigéniser ces débats, de les ancrer. C'est là la question, la nécessité de franciser ces débats, de les ancrer dans notre histoire, de les ancrer sur notre territoire, de les ancrer sur notre espace, de les ancrer dans notre langue. Qu'on ne parle plus de blackface, mais qu'on parle de barbouillage, qu'on arrête de penser que la question raciale, ce sont des questions qui sont importées des États-Unis, parce que Glissant, il écrivait, c'était un Français qui écrivait sur la France en français. On a Césaire, on a Jeanne Leroux, on a Eugénie Éboué, on a Marie Scondé, on a toute une tradition, ben, on a nous. Donc ce sont des questions françaises. Il y a un moment où il va falloir qu'on accepte, qu'on parle. Je vais prendre l'exemple du barbouillage. Moi, il y a quelque chose qui me frappe souvent quand il y a des polémiques comme ça, les suppléantes, Dunkerque, le bal des Noirs à Dunkerque, la polémique de Griezmann. Je regarde les journaux et à chaque fois, c'est expliqué. Il y a une espèce de pédagogie qui se fait. Alors, le blackface, c'est une pratique théâtrale venue du 19e siècle, les minstrel shows, Jim Crow. Et je dis, mais non, il y a une histoire française du blackface qui, d'accord, on le sait, ce grimage est là depuis l'Antiquité. Il y avait des traditions où les paysans se grimaient pour rythmer le changement des saisons. Il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la subversion où le riche pouvait devenir faux. Et c'est comme ça qu'on gardait aussi la paix sociale, en permettant pendant un mois ou deux à toutes les pulsions de se libérer. Et à partir de la modernité européenne, ce rite, ce maquillage va se teinter, sans jeu de mots, va se colorer de ce besoin que l'Occident va avoir de se civiliser en créant un miroir du non-civilisé. Et à partir de là, le grimage en noir va avoir une teinte, se grimer en noir. Et on le voit dans les manuscrits du théâtre. J'ai une amie, une très bonne amie, Noémie Njai, qui travaille sur ça, sur le théâtre prémoderne, où le grimage en noir va avoir un sens. C'est être le sauvage, c'est être celui qu'il faut civiliser, c'est être Satan, c'est être le diable. Donc, prendre toutes ces teintes négatives-là. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Par exemple, pendant le bal des Noirs, et je vais terminer sur ça, on a 10 000 personnes qui sont dans les rues de Dunkerque, habillées comme les deux personnages de la fresque de Dirosa, avec des os pris au boucher dans le nez. Mais le maire d'hiver gauche de Dunkerque, Patrice Vergriet, nous dit bah non, c'est français, c'est pas raciste, c'est la liberté, l'égalité, fraternité. Parce que pendant un mois, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut dans les rues de Dunkerque. C'est l'égalité parce que derrière la suie, on ne sait pas qui est patron, qui est manœuvre, qui est paysan. Et c'est la fraternité parce que tout le monde est content. Donc il nous dit que c'est français. Donc à partir de là, pourquoi aller chercher où on va se dire le blackface aux États-Unis, dans l'Amérique de Jim Crow, c'est mauvais. Mais dès que ça traverse l'Atlantique, comme ça, l'universalisme le stérilise et c'est encore mieux que le vaccin du Covid, c'est bien chez nous.
Et ce qui est intéressant, quand tu dis que tout le monde est content, justement, tout le monde n'est pas content parce qu'en fait, les alertes sont venues de Dunkerquois qui étaient noirs.
Absolument,
et qui ne se retrouvaient pas dans ce bal.
Absolument.
Où effectivement, il y avait non seulement la coloration de la peau, mais aussi des perruques, des vêtements extrêmement.
Des os, mais des vrais os qui sont donnés par les bouchers du coin. C'est absolument terrible. Et cette idée de dire tout le monde est content, mais c'est qui tout le monde? Et qu'est-ce qu'on fait pour revenir à la question de grâce? Qu'est-ce qu'on fait des voix des associations antillaises à Dunkerque, des associations noires en France qui disent « nous ne voulons plus de ça ».
Moi, je trouve aussi que cette volonté d'importer des termes alors que les notions sont théorisées ici, en France,
absolument.
En partie, ça veut aussi dire beaucoup sur notre volonté, de, comme tu disais tout à l'heure, de
d'étrangériser.
Exactement, de se dire que ce problème-là, ce n'est pas le nôtre.
C'est pas le
nôtre. Nous, on est exempt de racisme et on parle du blackface. Donc là, moi, quand j'ai lu le texte que tu as coécrit avec Maboula Soumaoro, qui s'appelle « Du besoin de traduire et d'ancrer l'expérience noire dans l'Hexagone », et moi, j'ai découvert le mot barbouillage en vous lisant. Depuis, j'utilise ce mot parce que je trouve que c'est très important de justement quand
c'est un l'ancrer. Mot qui est dans les textes du XVIe siècle. Après, il peut déranger, c'est enfantin, on va parler de face de noireau, mais ça existe en français. Et on sait, quand on connaît l'importance de la langue dans l'établissement de l'identité nationale, ce qui n'existe pas en français n'existe pas dans notre mémoire. On le voit pour le mot « blackness ». On ne veut pas.
Mais même les blacks, c'est-à-dire les noirs, quand on dit les blacks, c'est un évitement, c'est un contournement de la langue qui nous évite de se dire qu'on est raciste.
Bien sûr.
Mais, et de la même manière, tu parles de blackness, mais même black studies, donc les études qui portent sur les communautés noires, la pensée noire, enfin tout ce qui est lié à...
sur les Africains ou sur les Afro-Américains, mais pas sur les Afro-Français, qui d'ailleurs est un terme condamné, parce que c'est un terme qui met en trait d'union l'identité française, dont on nous dit qu'elle est une et indivisible, elle ne peut pas être mise en trait d'union par l'ethnie, la race, la religion, etc.
Et c'est quelque chose qui est assez large, parce qu'on parle de gender studies, on parle de whiteness studies,
absolument.
On parle... Il y a aussi des concepts quand ils sont traduits, puis il y en a
mal
qui sont traduits ou mal traduits.
Absolument.
Donc c'est ce qui, quand on parle d'affaires affirmative action et qu'on l'appelle
discrimination
la discrimination positive,
c'est,
voilà, c'est mal
terrible.
Traduit, ça induit quelque chose, ce n'est
absolument.
Pas neutre.
Quand c'est pour légitimer un rejet. Je veux dire, qui peut être d'accord avec la discrimination
Personne positive,
ouais, c'est ça.
Même plus.
C'est même racisme anti-blanc, parce qu'en anglais, c'est reverse racism. Mm-hmm. Donc ça veut dire, c'est la discrimination inversée. Donc,
du plus faible vers le plus fort, mais là, on sait, ouais, ici, c'est ciblé contre les blancs. Et c'est,
donc tout c'est ça, ça veut dire quelque chose, la traduction qu'on fait veut dire quelque chose.
Alors, tu
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste ? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche ? Chez Binge Audio Édition, on sort « Mécanique du privilège blanc », un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram « Semblant de rien », sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur Ulule, ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Dit dans son texte, je te cite, la France loue Angela Davis et Ta-Nehisi Coates lorsqu'il dénonce les démons de l'Amérique raciste, mais crucifie l'idole Lilian Thuram quand il met à jour les failles raciales françaises. Et on pense effectivement à la controverse qu'il a citée quand il a parlé d'un complexe de supériorité inhérent à la pensée blanche. La narration française autour de l'auteur américain James Baldwin fait aussi partie de cette rhétorique du déni. Il a fui les États-Unis pour venir en France et écrire. C'est bien la preuve que la France serait en dehors du racisme. Sauf qu'en fait, il a aussi dénoncé le sort des Algériens, notamment en France. Donc il y a vraiment une partie de son expérience qui est effacée. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il appelle l'épisode du drap dans ses chroniques d'un enfant du pays ?
Mon ami Julien Ciodo a écrit un très très bel article dessus sur Slate qui s'appelle « Ce que James Baldwin peut nous apprendre du racisme français ». Et en fait, moi j'ai trouvé très marrant comment en 2018, Baldwin, il a été toujours très aimé en France, mais il y a vraiment une espèce de renouveau, d'explosion à travers son film, le film de Raoul Peck, I'm Not Your Negro, la réédition de Notes of a Native Son à Gallimard, je crois que c'était Chronique d'un enfant du pays, qui a été traduit par Marie Dariosek. Et on l'a encore vu cet été, comment cette tradition française, donc de Baldwin à Richard Wright, au boxeur Panama Brown, à Josephine Baker, aux GIs américains, dont on nous disait la négrophobie ne peut pas exister en France, il ne peut pas y avoir de racisme anti-noir, parce que nous, bah regardez, on est le pays qui a toujours accueilli les Noirs, donc cette tradition-là d'accueil, et toujours nous ressortir le nom de Baldwin comme ça en étendard. Alors que dans Notes of a Native Son, Baldwin explique comment il est devenu Baldwin. Donc il est en France en décembre 1949, dans un hôtel assez miteux de Saint-Germain. Et il y a eu une espèce d'affaire comme ça, super bizarre. On l'accuse d'avoir volé des draps. On a retrouvé chez lui des draps siglés avec l'hôtel d'à côté. Donc il est embarqué au commissariat. Et là, il y a une espèce de dialogue complètement kafkaïen, un truc complètement ubuesque, qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Et là, il se fait amener à Fresnes, après il va au juge, finalement, il y aura un non-lieu. Mais il se passe quelque chose quand il est devant le juge. Il voit les gens qui sont en train de se marrer, ils sont par terre, de le voir avec ses yeux, sa figure, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Et là, il a un flashback, il entend les mêmes rires qu'il avait fait fuir l'Amérique. Il fuit l'Amérique ségrégationniste en se disant « je vais trouver la libération en France, je serai enfin un homme ». Et là, il se rend compte qu'il y a une universalité de ces rires-là, c'est les mêmes rires. Il y a une universalité de sa condition d'homme noir, de New York, des États-Unis. Et là, il dit « I became Baldwin ». C'est dans un tribunal à Paris qu'il devient Baldwin. Et donc, c'est la France qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Et cet exemple que je donnais dans donc, mon article des particularités de la négrophobie à la française dans cet ouvrage des racismes de France, c'est de dire que l'antiracisme, il est bien quand c'est les autres, quand c'est Angela Davis, quand c'est les Panthères Noirs, quand c'est Chimamanda, quand c'est Ta-Nehisi Coates, quand c'est Martin Luther King. On a des écoles Rosa Parks, on a des parcs Marielle et Franco. C'est bien quand c'est Mandela, ben pas chez nous. Parce que d'une, ça n'existe pas chez nous et on n'en veut pas. Donc cette manière d'avoir des bons antiracistes et des mauvais antiracistes, et les mauvais antiracistes, ben, c'est les antiracistes français, parce que Madame et monsieur, la race n'existe pas en France.
Et ce qu'on appelle ces nouveaux antiracistes, ils ont affublé de termes qu'on dit décolonial, on dit indigéniste, on dit catégoriel, parce que leur grille de lecture serait racialisante. Et il y a toujours une opposition dans les médias entre l'universalisme à la française et cette catégorie de nouveaux antiracistes dont Rokhaya Diallo fait partie, honte à elle. Toi, tu as écrit, Mme Fatou, dans une tribune dans Slate, tu te déclares universaliste et tu dis « l'universalisme doit être postcolonial autant que l'antiracisme doit être républicain ». Et tu dis aussi « nous sommes des universalistes dans le plein sens du terme, la République est grande pour nous lorsqu'elle fait une place à tous les Français, Françaises et non quand elle se limite à une clause d'ancienneté visant à maintenir les privilèges des premiers arrivés ».
Absolument. C'était un article coécrit justement avec Julien, où on dénonçait cette espèce de manichéisme maintenant, où on épouse d'un côté les gentils universalistes et de l'autre côté les méchants antiracistes. Et même à l'intérieur de la famille des antiracistes, il y avait les bons antiracistes, donc les organisations antiracistes traditionnelles, SOS Racisme, etc. Et les mauvais antiracistes, nous, donc indigénistes, etc. Et pour nous, cette opposition, elle était complètement inutile parce que l'universalisme doit être antiraciste et l'antiraciste doit être universaliste. Et au lieu de voir ces deux pôles comme opposés, au lieu de voir l'antiracisme comme quelque chose qui a mené la mort de la République, quelque chose qui a mené le ver dans le fruit, de voir l'antiracisme tel qu'il est fait par nous, aujourd'hui, cet antiracisme-là qui descend dans la rue, qui s'est coupé de la politique, mais qui ne s'est pas coupé du politique. Et moi, je parle de politique au sens grec de police, la cité, qui descend, qui prend le pouls de la ville telle qu'elle est aujourd'hui et pas telle qu'on l'a rêvée en 1792. Ça, c'est une exigence de la République. C'est des gens qui demandent que la République, telle qu'on l'a repensée, la res publica, le bien commun, redevienne quelque chose du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et moi, j'ai envie de dire à ces gens, qu'est-ce que vous voulez, un universalisme mythifie un truc à la Renan qui est abstrait, qui est basé sur des mythes, qui est déconnecté de son temps, qui est déconnecté du vrai visage de la France. Et avec Julien, on a dit, ça c'est un communautarisme. C'est un communautarisme blanc, c'est un communautarisme de la majorité qui est basé sur une espèce de clause d'ancienneté du premier venu et qui met tout dans le formol. On veut ça ? Ou on veut un universalisme à la Césaire ? Il disait un universalisme à visage humain, quelque chose qui se réinvente. Parce que c'est ça l'universalisme, quelque chose qui est un contrat toujours négocié, toujours renégociable et qui pense au bien commun. Et vraiment dans le sens de rousseauien du terme ou même dans le sens aristotélicien du terme, quand Aristote dit « res publica est res populi », que cette chose où tantôt on est gouvernant, tantôt on est gouverné, et cette circulation elle est possible parce que des gens qui sont dans le pouls du peuple peuvent savoir ce que ceux qui sont au plus bas de l'échelle ont comme problème et le faire remonter et non plus être dans une république comme ça, d'une caste déconnectée. Parce que ça ne tourne plus, on n'est plus tantôt gouvernant, tantôt gouverné, une caste déconnectée de la cité, et qui va nous garder les choses comme ça dans le formol, un universalisme. Moi, je l'ai écrit dans mon papier, ma France n'est pas la France de Napoléon III, pourquoi je devrais vivre sous les mêmes droits ? Surtout d'un universalisme qui est un idéal, on l'oublie, qui n'est pas fixé, et un idéal qui a toujours été matiné d'exception, le code de l'indigénat, l'esclavage. Alors, on a dit liberté, égalité, fraternité, nous sommes tous frères et libres et égaux en droit. Et pendant ce temps, il y avait des esclaves.
Les travaux forcés jusqu'en 1946.
Les travaux forcés. Donc, on le sait, c'est un idéal. Les valeurs républicaines, c'est un idéal qu'on doit renégocier. Et à partir de là, quand il y a des gens qui descendent dans la rue, été 2020, qui battent le pavé vraiment de la police, pour moi, c'est des gens qui mettent la République face à ces idéaux inachevés et c'est des gens qui travaillent pour l'universalisme. Donc, les écouter, c'est, et au lieu d'être loin d'être des séparatistes ou des casseurs de République, ces gens sont les vrais républicains.
Et toi, justement, en tant qu'universitaire qui a un pied aux États-Unis, enfin, qui travaille aux États-Unis, mais qui est française, comment ton travail est perçu et justement, comment tu vis justement le fait d'avoir cette spécialité par rapport à l'histoire de France et par rapport à la condition minoritaire en France, mais en même temps de l'enseigner aux États-Unis, quel regard est posé sur son travail et quel crédit on lui apporte en France ?
Regard par rapport à la France, en France, c'est très difficile parce qu'on l'a vu, ça a été... Alors, Julien et moi sommes tous les deux français, nous enseignons tous les deux aux États-Unis et je pense que ça a été aussi une grande part qui a pu aider à ce que notre travail par rapport à la fresque ait pu être désavoué parce que nous étions des agents de l'américanisation de la France, nous exportions toutes ces thèses-là, alors que moi, je suis partie de la France en 2006 parce que ce que je voulais étudier n'était pas accessible pour moi ici en France. Quand je me suis rendu compte que je voulais étudier ma personne en tant que femme noire et de me rendre compte que la scientificité, les limites que le milieu académique français m'imposait, m'évitait, rendait très difficile le fait que je puisse me considérer comme mon sujet de recherche, j'ai dû partir aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis que j'arrive, on me dit bah, « toi, tu es la française, tu vas nous présenter la partie sur Fanon ». Et je demande au prof « mais c'est qui Fanon ?» Je ne connaissais pas Fanon. Donc c'est aux États-Unis que je découvre Glissant, Césaire, Fanon, Condé, toutes ces choses, et de me dire « je n'ai jamais penser que la condition noire avait été réfléchie à ce point par des gens, que ça avait été écrit en français, dans ma langue. Donc les États-Unis, moi, m'ont permis voilà, d'avoir toutes ces pensées par rapport à ce que c'était d'être noir, toutes ces circulations transatlantiques autour de la condition noire qui faisaient qu'on retrouvait autant de similarités de Rio à, je sais pas, en Haïti, en Guadeloupe. Mais à un moment, je me suis rendu compte que la construction de l'identité nationale en France était tellement particulière que pour moi, il fallait penser la condition noire ou le fait noir, parce que j'aime pas trop le mot condition, qu'il fallait penser le fait noir en France. Donc j'aime bien le fait d'être aux États-Unis, mais j'ai toujours un pied en France parce que pour moi, voilà, il faut qu'on pose les fondations de notre présence ici, et ces fondations, elles devront se faire en ouvrant ces angles morts, en ouvrant l'histoire qui n'a pas été dite, parce que tout est là, tout a déjà été écrit, tout est déjà fait, on n'invente rien, et surtout franciser, indigéniser, le dire en français.
J'ai une question par rapport à l'universalisme. Il y a une déclaration du président Macron dans un article pour le New York Times où il oppose clairement l'universalisme et le multiculturalisme. Mm-hmm. Donc l'universalisme à la française et le multiculturalisme, c'est anglo-saxon, États-Unis, Angleterre. Est-ce qu'on peut être universaliste et multiculturel ?
Il y a un moment, il va falloir qu'on accepte de se regarder dans les yeux, parce que cette tendance dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, de toujours exporter, de voir cette curiosité morbide qu'il y a depuis la France, de compter le nombre de morts au Brésil, de vouloir faire un parc Marielle Franco, d'être comme ça sur le pool des États-Unis quand George Floyd est en train de mourir et de le...
Marielle Franco, c'est une activiste, femme politique brésilienne qui a été assassinée, qui était militante des droits des LGBT, des Noirs au Brésil.
Noirs, exactement. Donc d'avoir ce pouls comme ça sur l'étranger et de refuser, c'est ce que j'appelle avoir une longue vue sur tout ce qui se passe qui concerne les Noirs dans les autres pays. Et en fait, c'est une occupation qu'on a parce qu'on n'a pas envie de prendre un miroir et de se regarder devant soi et de se dire, mon Dieu, on est un pays multiculturel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ce changement démographique ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est assez terrifiant quand on voit 1 million de personnes dans les rues au printemps, à l'été 2020, et on se dit, mais d'où vient cette France ? C'est qui cette France multiculturelle ? Des gens qui viennent nous dire, mais je suis français et autre chose. Et il va falloir que cette double, triple, quadruple identité soit prise en compte dans la manière dont on pense à soi, Et pour moi, ce sont des circonlocutions, on est dans le mythe, on est dans ce que le langage peut nous dire, de se dire, voilà, on est universaliste, mais ça ne veut plus rien dire. Et là, on est dans un instant de refondation, et cette refondation, elle va passer aussi par les mots, de pouvoir se dire qu'universalisme et multiculturalisme ne sont pas à mettre dos à dos, mais le multiculturalisme aujourd'hui, parce qu'on est de facto un pays multiculturel, notre universalisme devra passer par le multiculturalisme, et notre multiculturalisme devra passer par l'universalisme. Donc, au lieu de mettre ces deux principes dos à dos, essayons de voir comment ils communiquent. Et on sait qu'ils communiquent parce que je suis là, franco-sénégalaise. Rokhaya est là, elle est franco-sénégalaise. Grâce, tu es là. Nous sommes là et nous sommes la preuve vivante, parce que si ce n'était pas possible, nous serions des espèces d'atomes atomisés en sortant au contact de l'air, parce que ce métissage est impossible. Nous sommes la preuve que c'est possible.
Merci pour cette belle conclusion, Mme Fatou.
Ouais,
c'est la fin de ce numéro de Kif Taras avec Mme Fatou Niang. Donc, on vous recommande vraiment sa dernière contribution dans l'ouvrage Racisme de France, dirigé par Omar Slaouti et Olivier Lecourt, Grand Maison, qui est paru aux éditions La Découverte en octobre. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous êtes universaliste, multiculturaliste, franco X ou Y, ou au contraire, si vous pensez que la France est un bloc universel qui ne peut pas s'enrichir d'autre chose, voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez effectivement nous faire parvenir vos commentaires.
Alors, sur kiftaras@binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux avec le hashtag kiftaras. On a maintenant une page un compte Instagram. Kif Taras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adèle Itel Elmadani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya.
Merci Grâce.
Merci Mme Fatou.
Merci à vous deux. C'était un plaisir.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.